Hey, avant de commencer le courrier de Randros, sachez que vous pouvez prolonger l'expérience de Shitlist en nous soutenant sur Patreon. En souscrivant en Shitlist Plus à 5 euros par mois, cela vous permet d'accéder à tous les épisodes exclusifs de Shitlist, en plus des épisodes en avance, sans publicité. Lien en description de l'épisode.
Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc sur ma joue. Je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie.
Je vais te fumer.
D'une deux recommandations ou pas du coup? Parce que ça, c'est
non, 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 bah non, non, bah, moi, non. Moi personnellement, j'ai trouvé ça pire que le premier. Mais bon,
tu vois.
C'est-à-dire que la déception est. En fait, le film est probablement mieux, mais la déception est encore plus grande. Voilà.
Moi, je pense qu'il a été déjà vendu n'importe comment. Enfin, vraiment, cette stratégie de tout foutre sur le casting, quelle bande d'enfoirés, quoi.
Je sais pas, écoute, Au vu des réponses sous les tweets des fans de Dune, je trouve le public de la SF très très mature et sérieuse, extrêmement puéril quand même.
Bon, après ça tu va, sais que
des...
après
c'est des comptes avec des numéros
fans...
et
non, mais après pour les fans de Dune, je suis d'accord sur un principe, c'est que de la SF de qualité, enfin du moins une certaine qualité, tu vois. Là, ça faisait un moment quand même que ça chiait un peu dans la colle.
Non, mais je dis pas.
Donc, je pense que quelque part, il y a une espèce d'espoir. Tu vois, il y a une espoir en regardant Denis Villeneuve en disant ah, peut-être qu'on va s'attendre à quelque chose. Donc, je pense. Non, mais...
Moi, j'ai explosé de rire plusieurs fois.
Voilà. Attends, laisse-moi. Est-ce que t'as explosé de rire à Austin Butler?
Ah bah j'ai un témoin près de moi, l'introduction d'Austin Butler, là c'était fini.
Le mec n'a pas quitté son rôle d'Elvis depuis 2 ans. Donc
il peut, c'est très bien. J'aime beaucoup le film.
T'es pas un acteur.
Il y a cette scène que vous avez vue
probablement
tous, où il est dans une arène en noir et blanc, mais alors un noir et blanc immonde en plus. Avec des contre-champs sur le baron Harkonnen pendant que son neveu se bat dans l'arène, Moi, quand ils introduisent, il y a deux moments où j'ai explosé de rire, c'est quand ils introduisent Austin Butler et quand il y a Timothée Chalamet à la fin qui commence à prendre sa grosse voix de Muad'Dib pour. Non, je dis non, ça va pas là. Vous allez trop. Non, ça va pas. Donc, non.
Vivant le 3, donc on va se marrer, ça va être sympa.
Vivant le Messie.
Ça va être rigolo. Ça a l'air d'être une cata, mais je le verrai un jour, je pense, d'une deux.
Ouais.
Avec grand plaisir. Peut-être pour la shitlist, hein, pour économiser un peu de temps.
Non, mais écoute, regarde-le, hein, ça reste un...
Non, je le ferai pour la shitlist, la sortie de Dune 3 ou une connerie dans le genre, et puis voilà, je m'économiserai du temps. Moi, c'est bon, le 1 m'a suffi. J'en peux plus. Le courrier des Durandos, c'est votre moment pour parler de Miami Vice, du podcast, ou même de la vie en général. Alors, pour Miami Vice, ça sera bien sûr... Bon, alors, j'ai posé la question sur Twitter, hein, j'ai l'impression que j'ai insulté des maires en demandant si c'était possible d'être dans la shitlist, non. Bien sûr, on a quand même des gens qui sont venus dire leur avis sur le film. Alors, Fucking Cinéphile nous dit « Polar noir radical où Mann se débarrasse de la superficialité des pop des années 80 pour mieux sonder le désespoir glacial du monde moderne à travers l'ivresse et la mélancolie existentielle d'un amour impossible. Un anti-blockbuster hypnotique et romantique. » Complément parfait, hâtif, oui, effectivement, le solitaire, je crois, en français.
Je vous aime bien, Fucking Cinéphile, mais vous racontez n'importe quoi. Mais...
Je trouve que, dans ce qu'il dit, moi, il a pas tort.
Alors, je pense que
c'est la formulation qui vous emmerde.
La superficialité.
Voilà.
En fait, c'est parce qu'il fallait voir au-delà. Et vous étiez aveugle.
Pinaille.
Dude 13 nous dit le public, on l'emmerde, ce film est magnifique.
Pourquoi pas?
Moi, c'est une bonne take. Shiniga Running nous dit chef-d'œuvre absolu, totalement complémentaire à la série, prêt à mourir sur ma colline sur ce film, et Gotti absolument exceptionnel de Jamie Foxx. Ouais, c'est un de ses meilleurs rôles. Hein.
Honnête.
Peut-être.
Shiniga Ronin, je connais cette personne.
Ouais, bien sûr, t'as dû faire une émission ou deux avec elle, je pense.
Non, je n'ai pas fait d'émission avec... Mais je veux rappeler à tout le monde que Camille est fan de Morbus, voilà.
Et chacun sa guerre, chacun sa guerre.
Non, mais y a pas de problème. Il a trop de collines à gérer en même temps, en fait. Il peut pas
avoir même...
Il va falloir en choisir une.
Ah, c'est clair. Kiko El Gaucho dit « Les gens s'attendaient à voir un épisode de Miami Vice et se retrouvent avec Michael Mann qui joue à faire des expérimentations de tournage nocturne avec sa caméra numérique dans un film plutôt lent et lyrique. Chef-d'œuvre. » Viandox nous dit « Colin Farrell avec un flow de gros baiser de Stuttgart de 1986. Meisterwerk. » Ouais, effectivement, ouais. Non, mais... Gros flow. Flow respectable.
Ah, le... Ouais, flow de Don Johnson, hein, pour le coup. Le flow de Don Johnson.
Alors, question. Don Johnson ou Colin Farrell?
Bah, Don Johnson, tous les jours.
Tous les jours. Tous les jours.
Ah, quand même, Don Johnson. Attends, il a un alligator qui s'appelle Elvis. Qu'est-ce que tu racontes?
Bah, déjà, ouais.
Ah oui,
quoi,
non, mais voilà, ouais, déjà. Voilà. Ah oui.
Et est-ce que vous avez... Est-ce que vous rêverez là, d'avoir un
par
alligator?
Par contre, pour le coup, tu vois... Il était mieux habillé en plus, Don Johnson, quoi. Tu vois, il avait pas le... Voilà, moi j'ai l'impression que... Il a un costard Célio, Colin Farrell.
Ouais.
Ah non, mais enfin,
non.
Mal taillé et tout. Rien à voir avec le Armani de Don Johnson, je suis désolé. Non, voilà. Non, le Versace au réveil en pyjama, non. C'est... Je suis désolé.
Une autre sphère.
Voilà.
Voilà, moi, tu me donnes envie d'aller voir la série rien que pour ça.
Ah, mais on fait un rewatch intégral de la série. Moi, je te dis, tu vas ressortir, tu seras un autre homme. Hein.
Putain,
voilà, je mettras,
un homme de goût.
Tu mettras des petits t-shirts blancs moulants sous ta veste à Armani, et puis voilà, quoi.
Ah, bah,
la veste à rayures Armani, tu vois.
mais je vais peut-être faire ça. Mais
c'est ça que tu veux.
On va peut-être faire ça pour le début de la fin, on va regarder Miami Vice.
Ah, bah, ça, moi, vous m'appelez, et puis...
Y a pas de souci. Let's go.
Pas de problème.
Let's go. Alors, on va passer aux questions de la semaine. Et la question de la semaine, c'était le film, selon vous, qui est le plus sous-estimé. Et on a deux films, et ça a été préparé, c'est incroyable.
Ah, t'as vu ça. Marvin, on prépare tout.
De ton côté, quel est pour toi un des films les plus sous-estimés?
Alors, je sais pas, la question est vague et c'est compliqué, hein, on sait
oui,
bien,
c'est
mais
compliqué. Bah oui.
Du coup, j'ai essayé de prendre un film qui est peut-être dans plus ou moins la même posture que Miami Vice aux yeux d'un public plus large. Donc, moi, on a déjà parlé de ce film dans l'émission pendant longtemps, donc je vais pas refaire le dialogue, mais je vais dire Cartel, du coup. Je pense qu'il a un peu la même position de à mon sens, pour le coup, chef-d'œuvre, mais considéré comme une gigantesque merde par beaucoup de gens.
Trop de gens.
Voilà.
Trop de gens, voilà, on en avait parlé effectivement dans un shitlist dans les pires Ridley Scott, et c'est un film qu'on avait réhabilité.
Vous pouvez
réhabilité.
Réécouter le shitlist sur les films Ridley Scott et on vous explique pourquoi vous...
Vous avez tort.
Bah vous comprenez rien, quoi.
Bah j'irai pas jusqu'à là, mais en tout cas...
Bah si, bon, bah, tu peux, moi j'y vais.
C'est un film qui a été super mal vendu, c'est une sorte de No Country for All Men, mais encore plus vénère sur le côté misanthrope.
Ouais,
vraiment dans
ça,
le
ouais.
Sens où il y a une galerie de personnages, c'est tous des teubés, c'est tous
un
des gros
cons. Un film sans lumière au bout du tunnel, du tout.
Ouais, voilà, oui.
Voilà, ce qui est difficile à appréhender, hein, je le conçois.
Bah disons que le final, quand t'as passé le final, t'es là, t'es bon, bah je vais crever, je vais aller crever,
bien sûr.
Je vais mourir.
Mais c'est ce que le film te dit en fait, tu vas
oui.
crever.
Va mourir, de toute façon.
Tu vas mourir,
quoi
maintenant,
que tu fasses,
demain,
tu vas
plus tard, mais tu vas mourir.
Tu vas mourir. Mais c'est ça qui est incroyable. Et puis, il y a des scènes de fou, quoi. Enfin, je veux dire, la scène
oui,
de baise de Cameron Diaz qui est en train de baiser un pare-brise.
Ah,
là, devant Javier Bardem.
Qui enterre Titan chaque jour. Ça, bon, on a déjà évoqué les scènes en question. Le Bolito, incroyable.
Ah, putain.
Le truc machiavélique et terrifiant. Voilà, et les scènes les plus terrifiantes, c'est même pas celles que vous voyez, c'est celles où les gens expliquent des choses, quoi. On l'a déjà dit, mais quand on vous expliquera dans Cartel ce que c'est qu'un bolito, ou ce qui se passe quand on fait un snuff movie, ben c'est vraiment là que t'as peur. Hein.
Oui, alors ce qui se passe quand tu fais de la merde avec le cartel, et qu'on explique.
Et qu'on te dit ce
qu'on
va se
fait
passer
avec
de manière
avec
très calme et posée,
ouais.
et que tu comprends que de toute façon ça arrivera, tu n'as pas le choix.
Expliqué par un Brad Pitt déjà accusé de violence à sa meuf, c'est déjà terrifiant.
Oui. Déjà. Non, alors Brad Pitt, il explique que c'est ce que c'est que le bolito, lui. Ah non, il parle aussi du snuff movie.
Oui.
Ce qui,
c'est
non,
lui qui explique ça à Michael Fassbender. Ouais.
Voilà, ce qui en plus ça prend un peu plus d'épaisseur, du coup. mais voilà. Et d'ailleurs, il finit très mal, donc ça plaira à beaucoup
de
gens. Mais voilà, oui. C'est le grand film sur la fatalité.
Il est toujours encapsulé, toujours avec une belle image, parce que Ridley
voilà,
Scott, parce
avec,
que
parce
on nous fait
Ridley
plaisir.
Scott, parce que c'est magnifique, et voyez, pour le coup, vraiment, la version longue, s'il
ouais.
vous plaît.
Oui, parce qu'il y a deux versions, effectivement, la version cinéma,
ouais, pour
celle
le coup,
qui s'est
là,
fait démonter.
Il y a un vrai écart, il y a carrément des scènes en moins, il y a des personnages qui disparaissent, voilà.
Oui, c'est un peu, c'est charcuté, mais ouais, la version longue, effectivement, si vous avez moyen de la mettre dessus, c'est un excellent banger. Karim, de ton côté, du coup, qu'est-ce que tu nous proposes en film de plus sous-estimé?
Ouais, compliqué comme question. Alors, on en avait parlé déjà un peu à travers Les Rivières Pourpres, on en a reparlé tout à l'heure déjà, mais ça va être Le Sixième Sens de Michael Mann ou Manhunter en version originale, qui est factuellement, on va dire, je crois, la première adaptation en fait de l'univers d'Hannibal Lecter. Et en fait, c'est techniquement, c'est la version originale du film Drap Rouge qui est sorti 15 ans plus tard.
Ouais.
C'est une espèce de
de Brett Ratner.
Ouais.
Super. Ah, incroyable. Super cinéaste.
J'adore.
C'est un film complètement fou, donc qui reprend, donc c'est pareil, thriller psychologique où William Peterson, je crois que son nom d'acteur, c'est
Wilson,
Will Graham.
Ouais, non, c'est William Peterson.
Ouais, ça c'est le nom d'acteur, mais Will Graham, ouais, en fait, c'est clairement que c'est un mec du FBI qui va rentrer dans tout ce qui est profiling, et on va suivre donc le tueur au dragon rouge. Le film, déjà, c'est une enquête policière qui est ouf. Psychiquement, c'est assez ouf. C'est très psychédélique. Il y a déjà un jeune Michael Mann à la caméra qui tranche énormément sur les couleurs. Hein. C'est un film assez fou. Et c'est un film, en fait, autour de moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui le connaît. Et surtout, j'ai l'impression que dans l'univers, en fait, Hannibal Lecter, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, celui-là, j'ai l'impression qu'il n'est jamais considéré. Alors que on est clairement dedans, hein, parce que c'est la première adaptation. On a le docteur Hannibal Lecter qui est déjà effectivement enfermé
qui est Brian Cox d'ailleurs.
Tout à fait.
Oui, Brian Cox en Hannibal Lecter. Mmh. Ouais. Et je trouve. Non, et puis il y a des scènes terrifiantes. Il y a des scènes terrifiantes dans ce film.
Ouais, le tueur, le dragon rouge qui s'est appelé.
Ouais.
Il a fait des dents tout sphériques.
Je sais pas s'il s'appelle le dragon rouge dans le. Non, dans Manhunter, c'est pas le dragon
c'est,
rouge.
Tout, je crois c'est, la fée, c'est la fée des dents ou tout sphérique ou un truc.
Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais, ouais,
et,
tout sphérique,
il
ouais.
parle du dragon rouge parce que justement, en fait, il y a un mythe. En fait,
il veut devenir.
Ouais, il a vu ça. Et c'est vraiment complètement fou. C'est moi qui adore les esprits malades. On est complètement dedans et on est malade, que ce soit chez l'enquêteur comme chez le fou, le tueur qu'on va suivre. Donc ouais, c'est un film assez dingue et je trouve actuellement que c'est un film qui est vraiment méconnu à tel point que quand tu dis le sixième sens, personne ne...
Tu penses à Natchalman.
Voilà, tu vois, tout le monde pense au sixième sens.
Ça se défend, ça se défend.
Non, je dis pas parce que le film quand même, il est un peu obscur quand même, tu vois, 86, je sais pas s'il a été ultra bien distribué après. Mais
bah, je pense que c'est un film pour le coup qui a vraiment retrouvé sa superbe plus tard, quoi. Parce que après l'explosion de Michael Mann, les gens ont commencé à regarder ça et à se dire, bon, c'est vrai que c'est quand même vachement bien, quoi.
Et moi je l'ai découvert.
Et vous rappelez que c'est cette période où William Peterson a fait un run To Live and Die in LA, oui. Manhunter, et ensuite il a disparu. Personne ne sait pourquoi. Il est revenu dans Les Experts. Voilà. Donc.
Pour moi, c'est un mec qui l'a fait. Il est un perfectionniste, dans le sens où il dit je peux pas faire, pas faire mieux, je me casse.
Police fédérale Los Angeles, Manhunter, il a dit bon bah voilà. En vrai, c'est un grand mystère. Hein.
Je pense que en gros, responsabilité de famille, il s'est dit j'ai un gamin, ou il a dû avoir un truc comme ça, il a dû dire bon allez, je me calme et je reviens plus tard. Moi, pour moi, c'est une théorie. Hein.
J'ai cherché. On ne sait pas. Voilà.
On ne sait pas.
On ne sait pas.
C'est non, mais en tout cas, il y a dans le sixième sens, il y a au moins une scène qui me terrorise, c'est quand t'es en pauvre, en point de vue du tueur qui est en train de s'infiltrer justement chez des gens là, enfin chez ses prochaines victimes. T'es là, t'es putain, mais tu fais mes putains de merde. Et puis à un moment donné, il torture un mec ou un keuf, je sais plus. Et à un moment donné, en fait, il va le cramer, il balançait en fauteuil roulant dans un parking en mode random. Tu t'y attends pas en plus à ce truc là. T'as des trucs, enfin c'est assez terrifiant. Mais je pense qu'après, effectivement, le sixième sens s'est fait éclipser malheureusement par le succès de Seigneur des Anneaux et de l'exploitation derrière qui s'est faite.
Seigneur des Anneaux.
T'as dit Seigneur des Anneaux.
Le Seigneur des Anneaux. Ah,
perdu, Luc.
Je me suis encore baisé par Peter Jackson. Putain, quel enfer. Non, mais il s'est fait, voilà, il s'est fait avoir.
Notre vie va nous baiser, Peter Jackson, putain.
Il va nous casser les couilles. Non, mais voilà, il s'est fait avoir par effectivement le succès du Seigneur des Anneaux et que de l'exploitation qui est passée derrière ce film, en fait. De Hannibal Lecter, tout
ça. Ouais, bien sûr, du Hannibal, de Ridley Scott, de Dragon Rouge, même de.
Voilà, et en fait, on oublie beaucoup celui-ci au milieu dans les années 80, voilà, première adaptation.
Alors que factuellement, c'est le meilleur.
C'est le meilleur.
En vrai. Non, mais en vrai. À le dire, il n'y a même pas photo, tu vois.
Visuellement, c'est celui, je trouve, qui est le plus
abouti. Ouais,
voilà, tu peux mâcher là-dessus, quoi. Et que je pense... Alors après, il est quand même à égalité sur au niveau de la terreur. Je pense qu'il est en égalité, en fait, les deux par rapport au l'antagoniste.
Bah, ouais, non, mais après, il y a Anthony Hopkins
qui
le silence des agneaux.
Voilà.
Et bah écoutez, on va pouvoir passer aux recommandations culturelles. Je sais que là, il y a une série qui vient de débarquer. Là, sur FX, sur Disney, qui est Shogun, Marvin.
Voilà,
Shogun.
C'est ça. Non, mais avant, parce qu'en fait, je continue de prendre des risques, parce que rappelez-vous... Rappelez-vous, j'avais
recommandé Monarch.
J'avais recommandé Monarch. Terrible erreur. au bout de deux épisodes, à chaque fois. Ensuite, au bout de deux épisodes, j'avais recommandé True Detective Nine Country. Pire erreur encore.
Pire erreur, par contre, frère, ça, je me suis fait baiser la gueule aussi.
On va pas spoiler, mais il y a un gang en question dans le dernier épisode qui nous a tous mis sur le
coup. Moi, je m'en branle, je dis le gang des femmes de ménage. Comme
ouais, voilà, bon, allez, on en a rien à foutre.
Le gang des femmes de ménage.
Voilà. Le gang des femmes de ménage, bon, on s'y attendait pas. Voilà, merci.
Mais bon, merci en tout cas d'avoir proposé ça. Fin audacieuse.
Je reprends une série avec deux épisodes actuellement. et puis je tente, je remets une pièce dessus après deux échecs. Donc voilà, je mets une pièce sur Shogun.
Et à la fin, tu vas te rendre compte qu'en fait, le complot en fait était organisé par des femmes de ménage.
Exactement, les femmes de ménage japonaises cette fois-ci.
Voilà.
Mais on en reparlera à la fin de la saison pour faire un bilan pour savoir si je me plante à chaque fois ou pas. mais pour le coup, je n'ai fait que suivre la hype, tu vois. Bon, même s'il n'y avait pas tant de hype que ça sur Night Country, je m'étais fait un peu avoir quand même. Mais pour l'instant, donc c'est une série alors qui n'est pas japonaise, hein, c'est une série américaine qui est produite par FX, Hulu, etc. Tout le monde a Disney Plus ici, mais qui a quand même la bonne idée d'être produite par Hiroyuki Sanada, qui c'est ouais. un truc sous son impulsion, qui considère comme étant enfin une porte d'entrée. Cohérente pour les Occidentaux vers la culture japonaise. Voilà, c'est comme ça un petit peu qu'il le vend. Alors bon, il y a un petit peu de blabla marketing derrière tout ça.
Bien sûr.
Il n'empêche que pour l'instant, ça sent la thune. Hein, déjà. Non, mais déjà, c'est agréable.
Ah bah c'est... Oui, bah ça, c'est indéniable.
Ça sent l'argent. Moi, je trouve ça assez passionnant. Je trouve ça assez passionnant. En plus, on introduit un Occidental dans l'histoire et je trouve que c'est assez bien foutu, justement.
Bah ça joue un peu comme Silence de Martin Scorsese, un petit peu. C'est à peu près...
Ça se passe après, puisque c'est après l'inquisition portugaise et tout ça. Enfin, la tentative d'inquisition, voilà. Et vous avez effectivement... Alors, je vous rappelle, hein, comme à chaque fois qu'on a ce genre de prod... C'est obligatoire, le bingo. Donc, vous savez de qui je veux parler. Évidemment, vous avez deux acteurs japonais, lesquels on a pris. Réécouter notre épisode sur 47 Ronin, ils sont toujours là. En plus, le film est quand même... La série est majoritairement tournée en japonais. Donc, les dialogues sont en japonais, ce qui est quand même un effort pour un truc produit par FX Hulu, faut pas se mentir. Ils auraient pu les faire parler en anglais en permanence. Hein. Clairement, je veux dire, on n'était pas à ça près. Honnêtement, j'ai eu un doute. Mais voilà, pour l'instant, deux épisodes, énorme production value. Alors, parfois, c'est
le coup
de yeux, on va voir. Énorme production value. C'est quand même... Bon, une... Pour l'instant, on a une espèce de saga qui me semble intéressante avec des vrais enjeux. Il y a quelques scènes d'action qui sont très réussies. Alors, est-ce que la série va tomber, on va dire, dans l'espèce de Game of Thrones like.
Ah, vendu comme ça et c'est un souhait
alors,
de la plateforme.
C'est des gens, ouais, puis c'est des gens qui l'ont un peu comparé vite à ça, mais en tout cas, est-ce qu'il va tomber dans l'excès de je fais du graphique pour faire du graphique en oubliant un peu tout ce qu'il y a derrière? Je ne sais pas, on verra, ça, c'est toujours le risque avec ces trucs-là. Mais écoute, au bout de deux épisodes, moi je suis quand même bien hypé. Alors, me suis-je encore une fois lamentablement planté? Peut-être. Mais j'y crois. Là, j'y crois un peu plus, tu vois.
On verra donc, je sais pas combien il y a d'épisodes.
Il y en a, je sais plus, 8 ou 10, je crois.
Ouais, donc c'est dans 2-3 mois qu'on pourra dire...
D'ici 2-3 mois, on pourra dire, est-ce que...
D'ici 2-3 mois, on pourra dire, vidéo. Désolé.
Ouais. Est-ce que...
Un podcast d'excuses pour l'année de série de merde.
Est-ce qu'on m'aurait pas vendu Godzilla pour me mettre des petites araignées à la place? Enfin, je sais pas, tu vois.
Voilà.
Est-ce que ça fera le même effet? On verra.
On verra. En tout cas, Shogun sur FX, donc il y a deux épisodes pour l'instant. Enfin, je crois que quand ça va sortir le podcast, il y en aura trois à peu près. Karim,
tous les mardis, donc...
Ouais, bon, on verra. Karim, de ton côté.
La roco que j'étais pas prêt à faire moi-même, rentrant jeudi dernier un peu bourré chez moi, je me suis accaparé une série de télé-réalité avec Madame sur Netflix, s'appelle L'Agence.
Là, ça c'est l'esprit, ça c'est l'esprit. Ça c'est l'esprit.
L'immobilier de luxe.
Vous êtes des malades.
Alors, c'est extraordinaire, concept de la série. Donc, c'est les séries font des épisodes de 50 minutes. Il y a 4 saisons, à peu près 4, 5, 6 épisodes max à chaque fois. Et on suit une famille, donc ils sont tous agents immobiliers, la famille Kretz, c'est papa, maman, 4 fils. Donc, il y a une partie en fait qui est très cool. On voit des agents immobiliers qui vendent des biens de luxe à Paris, et pas que à Paris, hein. Ça finit des fois à Saint-Barthes, il y en a en province, il y en a un peu partout, et c'est des baraques entre, je sais pas, 5 et 20 millions d'euros, tu vois. Alors déjà c'est cool, parce que quand t'as mes beaux intérieurs, machin et tout, ça claque des culs, c'est très bien filmé. Mais surtout, entre ça, faire des épisodes de 50 minutes, ça ressemble réellement à Plus belle la vie, parce que c'est une télé-réalité avec leurs histoires de famille, et c'est fou. C'est absolument fou, c'est génial, je veux dire, c'est tout est scripté, évidemment, hein, je veux dire, c'est tout est écrit, mais c'est Emily in Paris, mode agent immobilier, ils habitent tous dans des endroits formidables, ils ont des habitudes extraordinaires, ils font tous des brunchs, il y a des histoires, genre, il y a un lore avec, genre, le dernier, Valentin, qui passe son bac, je veux dire, aussi, qui va te tenir pendant deux saisons, la rivalité entre Martin...
Ah non, mais je prends, moi, je prends, mais...
Voilà, je veux dire, c'est avec les parents au milieu, et des enjeux aussi, parce qu'au fur et à mesure, ils essayent de grandir, par exemple, fin de saison 2, je sais pas ce que j'ai fait que les deux premières saisons, ils essayent d'avoir un certain Daniel, un je sais plus quoi, qui est un agent immobilier international, et en plus, bon, t'as les... Enfin, c'est extraordinaire parce qu'en plus des fois ils essaient de faire interagir les deux, parce que des fois ils font des concours pour essayer de vendre des maisons où ils font un peu des concours de bites, ils font des paris, c'est génial en fait. Alors c'est génial, non, cette vérité c'est nul, hein, c'est la pire roco que je vous fais.
Oui, oui.
Par contre c'est un divertissement stupide, je l'ai fait avec alcool, c'était très cool, je l'ai fait sans, ça passe.
Sobre, sobre, c'est bien, ça passe,
ça, okay, ça passe. Ouais, ouais. Moi ça peut pas devenir mon rendez-vous, voilà, tu vois, mais en vrai ça montre vraiment par contre des endroits chiadés, genre la fois je pensais à Marvin et à Lisa, ils montraient des baraques à Annecy, genre avec des piscines souterraines qui sont genre taille piscine municipale, tu vois, je veux dire, c'est ça, c'est extraordinaire. Voilà.
Mais un jour je l'aurai, Karim, t'en fais pas.
Mais quand
tu veux. Tu viendras, vous
et
viendrez,
on fera
tous.
Et on fera une saison de l'agence.
On sera dans la piscine et il y aura un hors-bord et un alligator.
Ah oui, je veux un alligator.
Voilà. Elvis sera là, mon pote. Elvis
il s'appellera Johnny Cash.
Oh, bah d'accord. À chaque fois,
voilà. Parfait, parfait. Donc voilà, l'agence immobilier de luxe sur Netflix, dispo, bah, dès maintenant, voilà.
Ouais, bah écoute, c'est parfait ça. Bah du coup, si on va être dans ce sens-là, moi je voulais recommander Final Fantasy VII Rebirth, mais on s'en bat les couilles. Finalement, L'île de la Tentation saison 2. Non, 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 ça marche pas. Ça marche pas parce que je l'ai déjà faite, mais elle est disponible en replay et c'est incroyable. Franchement, c'est absolument débile. Une belle leçon de montage aussi, et big up à tous les monteurs qui sont en train de travailler dedans. Putain, vous êtes des malades. Mais non, il y a Love is Blind aussi sur Netflix, c'est incroyable. Love is Blind, c'est pareil, le principe c'est quoi, c'est plusieurs célibataires américains, que ce soit des mecs ou des meufs, qui essaient de se dater en ne se voyant pas. Ils se rencontrent dans des petits pods et ils se parlent entre eux, et il y a des psychopathes, il y a tout en fait, mais c'est stagé comme des Américains savent stager les trucs. Donc ils sont tous complètement cons, parce que nous, Européens, quand on voit des gens comme ça, en fait ils sont naturels eux, mais nous, quand on les voit, on se dit putain, ils sont complètement cons ces Américains. Mais c'est voilà, c'est le petit plaisir. J'ai arrêté au bout d'un épisode, je sais que ma meuf a continué et qu'elle a adoré, mais que
mais
voilà,
vers la brèche,
j'ai trouvé ça vraiment très drôle d'une certaine manière. Non, non, mais vraiment, moi j'ai une
personnalité
en ce moment qui est pas mal.
Vous vous rendez compte de ce que vous osez recommander à notre auditoire cinéphile, c'est...
J'avoue.
Ouais, ouais, mais bon, d'un autre côté. Ah. D'un autre côté, moi, j'ai envie de te dire, moi, les mecs, ils me parlent tout le temps de cinéma, je les fuis.
T'as raison.
Bah non, mais franchement, t'as le mec qui me dit, j'ai regardé ça, non, mais... j'en ai rien à branler, casse-toi.
Ah ouais, ah mais...
casse-toi.
Littéralement.
Ah non, 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 mais moi,
je suis 100% d'accord.
Moi, je te dis, dans la réalité, les mecs qui essaient de me parler de cinéma, je m'en bats les couilles.
Ah mais en vrai.
Fais autre chose, fais autre chose de ta vie, frère.
Je fais une roulade, moi.
Ah voilà, j'appuie sur rond, frérot.
Le mec, il me dit, moi, j'ai plutôt pensé ça. Non.
Rond.
Moi, je refuse de débattre du cinéma avec qui que ce soit, en dehors du cadre de cette émission. Voilà, je me dis, clairement. D'une, on a une vie, et de deux, on s'en branle de vous. Non, mais dans le sens où...
Ce qui est honnête, vraiment.
Les comptes en 150 abonnés qui viennent sous les tweets sur Dune dire « Mais toi, t'as pas aimé, alors comment je... » Mais je ne vous lis pas, en fait. Je m'en fous, en fait. Je m'en fous que vous ayez aimé.
Il a vraiment...
Donc ne le faites pas, voilà.
Pareil, c'est le cinéma, au bout d'un moment, voilà, c'est rigolo.
Non, mais...
On se marre bien. Mais voilà.
Voilà, on se marre bien, on est là. Là, il y a un cadre défini. Mais dans la vie... On n'a pas envie de débattre, on s'en fout. Je veux dire, bon.
Ah, la vie, on est en train de survivre, là, comme des cons. En train de
ouais, voilà. Ouais. Ah, nous, on a des vrais problèmes dans la vie, au bout d'un moment. Tu vois. Voilà. Luc, il faut finir cette émission.
Non, 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 notre chat nous a bloqué la plaque vitrocéramique. Il va falloir que je finisse cette émission pour.
Notre chat est en train de se faire. Il est en train de se faire manger.
Voilà, je disais que j'avais des problèmes, et voilà les problèmes moi, que j'ai dans la vie.
Voilà. Nous, on a des vrais problèmes. C'est pas. On a des vrais problèmes. On pense à autre chose que des vers géantes sur du sable. Excusez-nous.
Excusez-nous. Pardon. Désolé. Voilà, pardon. Voilà, exactement. Alors écoutez, écoutez, c'est formidable, on a eu des recommandations, plein.
C'est copyrighté.
écouté, parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, 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 copyrighté. Tu peux pas l'écouter, parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté, on n'a pas de blé, on n'a pas de blé. Et tu peux m'en donner, tu peux pas l'écouter, parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, 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 copyrighté. Tu peux pas l'écouter, parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, 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 copyrighté. Tu peux pas l'écouter, parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, copyrighté.